Michel Guez, bonjour.
Bonjour.
On se voit dans le contexte du Synthfest, ce festival dédié aux musiques électroniques, aux synthétiseurs également. Vous êtes un habitué, je crois que c'est la quatrième fois que vous venez ici à Nantes.
Oui, je suis un peu fidèle, effectivement, c'est un rendez-vous annuel pour moi. Enfin, ça a été à des dates différentes des autres fois, mais enfin, je suis heureux de me retrouver ici.
Qu'est-ce qui vous plaît ici, dans ce festival ?
D'abord, l'ambiance des passionnés du synthétiseur, et en plus, cet esprit très sympathique qui se dégage de l'ensemble, avec des gens qui se connaissent, qui se reconnaissent, et puis qui se revoient à cette occasion aussi. En plus, il y a des gens qui ne se voient pas pendant toute une année et qui se revoient à ce moment-là. C'est vraiment très, très sympathique, le Synthfest.
L'histoire du synthétiseur, de ce mouvement des musiques électroniques, vous le connaissez parfaitement. Vous avez été témoin, justement, de l'éclosion, j'allais dire, ce nouveau mouvement musical. Au départ, pourtant, le synthétiseur, c'est pas votre instrument. Vous êtes plutôt fondu d'accordéon au départ. D'ailleurs, vous recevez plusieurs prix qui vous distinguent, justement. Alors, si je me trompe pas, c'est bien ça, l'accordéon au départ. Et je voulais savoir comment on passe de l'accordéon, finalement, au synthétiseur.
Alors, l'accordéon, c'était dans ma jeunesse. Il y avait même eu une période harmonica. Et l'autre étape de ma vie, c'était d'apprendre l'électronique et d'avoir des diplômes d'études supérieures d'électronique. Et quand j'ai découvert que des synthétiseurs existaient, simplement leur existence, dans un magazine que je recevais dans mon entreprise où je travaillais comme électronicien, ça a déclenché quelque chose en moi. Je me suis dit, il y a de l'électronique, il y a de la musique. Et du coup, je me suis passionné complètement pour les synthétiseurs, les premiers en fait, premier ARP 2600-2500, et j'ai même décidé de proposer de faire une conférence sur ce sujet pour Télédiffusion de France, à Issy-les-Moulineaux. Et à la fin de la conférence, un ingénieur du son d'une radio ou d'une télévision, je ne savais pas d'où il venait, m'a dit quelqu'un serait certainement très intéressé de vous rencontrer. Il s'appelle Jean-Michel Jarre. Alors, il m'a dit, est-ce que je peux lui donner votre numéro? J'ai dit, pourquoi pas? Et une semaine plus tard, Jean-Michel Jarre m'appelle. J'étais chez mes parents. Et il me dit, on m'a dit que vous êtes le plus grand spécialiste du synthétiseur, etc. Bon, en fait, j'étais pas le plus grand spécialiste, mais il le voyait comme ça. Et il m'a dit, est-ce qu'on pourrait se voir? Alors, c'est en 74, je l'ai rencontré. Et puis, surtout comme je connaissais bien l'ARP 2600, lui, il en avait un. Il m'a demandé plein de choses dessus. Et ce qui est drôle, c'est qu'à la fin, il m'a dit « Alors, combien je vous dois ?» Et moi, j'étais trop content de faire partager mes connaissances sur les synthétiseurs. Et j'ai dit « Rien du tout, quoi. » Et donc, il s'est passé 2 ans. Et puis, un jour, alors que je travaillais là, cette fois-ci, dans les studios Barclay, non plus comme électronicien dans l'autre entreprise, il me rappelle et puis il me dit « Tu sais, Michel, je suis en train de préparer mon grand projet. » Et son grand projet, c'était Oxygène.
Le méga-tube de Jean-Michel Jarre.
Ben, en fait, c'était ce qu'il a fait connaître par le grand public, parce qu'il faisait des choses avant pour des chanteurs, des chanteuses. Il était réalisateur, il écrivait des textes, superbes d'ailleurs, comme par exemple le texte des mots bleus, chanté par Christophe, qui est pour moi une réussite, c'est vraiment magnifique. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que pendant que je travaillais au studio Barclay, dans la journée, tous les soirs, il m'appelait pour me dire « Alors, on se voit ce soir et on travaille ensemble sur l'album Oxygène. » Donc, ça a été le point de départ. Et ensuite, ça a continué pour l'album Equinox, alors que pour Oxygène, j'étais là à temps partiel. Je travaillais que le soir. Et pour Equinox, j'ai abandonné tout le reste de mes activités et j'ai travaillé à temps complet avec lui.
Qu'est-ce que vous faisiez concrètement, pour moi qui ne suis pas un musicien, ni musicien de synthétiseur ou électronique, c'est quoi cette coopération-là, elle était faite de quoi? Vous étiez un sound designer, vous proposiez des mélodies, vous proposiez des arrangements, ça se situait où?
Alors c'est un mélange de tout ça, parce que quand on travaille à deux, qu'il n'y a pas d'autres musiciens, en ce qui me concerne, j'ai programmé des sons. Déjà par exemple, entre autres le son du thème d'Oxygène 4, du single, ce son un peu de cuivre là. Il m'a demandé mon avis sur des arrangements, sur le développement du morceau, justement, Oxygène 4, puis d'autres choses aussi. Et ça a été très loin dans la collaboration, puisqu'on j'étais un fidèle des salons de la musique, d'ailleurs un peu équivalent au Synthfest, mais à l'époque, il y avait des salons à Paris, maintenant il y en a moins, et j'avais découvert des instruments qu'il ne connaissait pas. Et lui, il voulait étendre sa palette instrumentale.
Qu'est-ce qu'il ne connaissait pas comme instrument, par exemple?
Par exemple, les RMI, Alors, il y en avait deux. Il y avait le Harmonic Synthesizer et le Keyboard Computer. Et les deux, ils ne les connaissaient pas, mais je lui ai dit, j'ai vu ça, ça pourrait t'intéresser. Et puis, on est allé chez le revendeur, qui était à Montreuil, et puis il les a achetés tous les deux. Bon, donc ça, il les ignorait, mais ça a été quand même un instrument qui a compté pour lui, puisqu'il s'en est servi dans le chorus d'Oxygène 4, et puis dans d'autres parties de la face B de l'album.
Vous parlez de 1974, c'est la rencontre avec Jean-Michel Jarre. Vous donnez une conférence sur la synthèse musicale, si j'ai bien compris. À cette époque-là, ou avant, quelle place avaient les musiques électroniques? Elles n'étaient pas encore populaires. C'est Jean-Michel Jarre qui popularise tout ça. C'était quelque chose de très confidentiel. C'était des happy few qui jouaient sur leur machine.
Alors, pour être objectif, la musique électronique n'est pas apparu d'un seul coup avec Jean-Michel Jarre. On faisait partie d'un mouvement à ce moment-là. Mais les tendances musicales de la musique électronique n'étaient pas les mêmes. Il y avait des gens comme Klaus Schulze, Tangerine Dream, Kraftwerk. Ces gens-là avaient des expressions musicales avec le synthétiseur qui étaient très différentes les unes des autres. La différence de Jean-Michel Jarre, c'est qu'il a privilégié la mélodie, les constructions, les évolutions, et il a plus vu ça comme presque des chansons, où il y avait des arrangements, il y avait un style quand même, je peux dire, relativement romantique dans l'expression, un peu grandiose et tout ça, que les autres n'avaient pas. Donc son succès, il est dû aussi à la différence. Mais on ne peut pas dire que ça soit à ce moment-là que la musique électronique soit apparue. D'ailleurs, si on remonte encore dans le temps, il y a eu une révolution de la musique électronique avec Switched on Back, de Walter Carlos. C'était avant, et c'était le numéro un des ventes du classique à l'époque où c'est sorti, dans les années 60. Donc en fait, la musique électronique a suivi son chemin, et puis Jean-Michel Jarre, après avoir fait d'ailleurs quelques albums ou CD confidentiels, là, Oxygène, c'était le grand départ.
Ça a pu lui être reproché d'ailleurs, le fait que c'était un peu mélodique, un peu proche de la chanson, pour les puristes, entre guillemets. Je crois qu'il y a eu des débats, peut-être de chapelle, mais des débats quand même.
C'est vrai, il y a eu pas mal de débats. Il a été contesté, notamment pour certains titres qui ont fait le tour du monde, comme Rendez-vous 4, qui a été utilisé dans beaucoup de réunions populaires, de meetings, de stades de foot, etc. Rendez-vous 4, il a eu un petit peu de mal. En fait, les critiques, ceux qui sont considérés comme des musiciens accomplis, etc., un peu académiques et tout ça, ont trouvé ça trop simpliste. Mais il n'empêche que le public a complètement adhéré. Et puis ce thème, enfin, Rendez-vous 4, c'était une sorte d'hymne qui a été un immense succès. J'ai même entendu dire qu'il y avait des mariages où c'était joué en Afrique, carrément. Donc c'est... Bon, je ne veux pas exagérer l'importance de ça, mais en même temps, il a su avoir le côté populaire de la musique. C'est aussi ça qui compte pour lui.
Et universel, parce que ça franchit les frontières, les continents, c'est ce que vous nous dites.
Oui, tout à fait, oui. Alors, concernant mon rôle, puisque c'était aussi la question, mon rôle a été très diversifié, donc de programmation de son, de conseil de structure, de morceaux, y compris des idées musicales aussi. Beaucoup de choses, ça a été jusqu'à la surveillance et la fabrication des cassettes. À l'époque, il y avait des cassettes, la surveillance de la fabrication des disques, etc. C'était une collaboration vraiment complète à tous les échelons. Et puis, en plus, collaboration sur la conception des concerts. Par exemple, je me souviens du jour où je l'avais invité au restaurant, dans un très bon restaurant dans notre région de l'Ouest parisien. Et à cette occasion, il m'a dit, écoute, c'est très bien qu'on se revoie puisque j'ai un grand projet de concert. Et il me dit, c'est un concert à Houston. Et il me dit, tu t'imagines, c'est l'anniversaire de la NASA et le 150e anniversaire de la ville de Houston. Et il me dit, j'aimerais que tu y sois associé. Alors là, les bras m'en sont tombés. Et puis finalement, tout ça a démarré. Je suis parti d'abord en repérage là-bas pour des choses pour lui, etc. Puis après, ça a continué. Ma présence sur scène aussi et tout ça. Bon, c'était une aventure
forte,
très forte, et une partie de ma vie qui est extrêmement riche, je dirais.
Et les concerts de Jean-Michel Jarre, c'est des concerts énormes. On se souvient de celui du Mont-Saint-Michel. Enfin, bien d'ailleurs, il y a des centaines de milliers de personnes à chaque fois. On imagine que le projet doit être impressionnant, puis la réalisation effective du projet également, quand on est sur scène avec cette marée humaine devant soi, on ressent quoi d'ailleurs ?
Alors c'est difficile de dire ça, parce que les gens vont dire que je pêche par excès de modestie, mais par exemple sur la scène de La Défense, le concert La Défense qui était un concert gigantesque, il y avait des gens à perte de vue, entre La Défense dans la perspective de l'avenue, hein, jusqu'à
la Grande Armée, les Champs-Élysées plus loin, c'est ça ?
Ouais, jusqu'à la place du Palais des Congrès, tout ça était noir de monde. Il y avait même une transmission du son à différents points qui était non pas par câble, parce que c'était trop loin, trop long, qui était faite par satellite. Et donc ça montre l'importance du projet. Mais on était finalement pas très près des gens. Les plus proches étaient une centaine de mètres. Donc c'est pas du tout la même chose quand on est dans un concert, dans une salle. Et finalement, on se rend pas bien compte, hein, je trouve. On est dans un autre monde, entouré par des caméras et tout ça. Et puis, on est un peu comme sur un plateau de télévision. Et c'est difficile de se rendre compte qu'il y a autant de monde, finalement. Et c'était à Houston, c'était même encore pire. On était dans notre hôtel, le Méridien, qui était en face de la scène, en fait, en surplomb. Et depuis les fenêtres du Méridien, on voyait la foule arriver petit à petit, à perte de vue. Et c'était incroyable, vraiment, au soleil tombant, de voir tous ces gens se masser pour le concert.
Donc c'est des centaines de milliers de spectateurs.
Oh bah oui, en fait, c'était des centaines de milliers, oui. On a compté même des millions, mais alors ça, c'est difficile de...
Là, on se dit qu'il y a intérêt qu'il n'y ait pas de pain technique, faut que tout roule.
Il y en a eu. À un moment, parce que les feux d'artifice tiraient au-dessus, hein, à un moment, il y a des morceaux de feux d'artifice qui sont tombés dans un clavier, et puis il y a une note qui est restée coincée. Alors, je ne sais plus sur quel clavier, mais enfin, on entendait une note en continu, et c'était à cause d'un morceau de plastique de feux d'artifice qui était tombé dessus.
Alors, on parlait de votre parcours qui a croisé celui de Jean-Michel Jarre, quelqu'un qui vous a marqué, et puis c'est un grand nom des musiques électroniques. On parlait de ces débats un peu divisés entre puristes et ceux qui veulent faire de ces musiques électroniques des musiques populaires, ce qu'elles sont devenues. Michel Gaïs, dans votre parcours, vous passez par l'IRCAM, cet institut de recherche là, sur la musique. Quel regard d'ailleurs a eu ou a encore l'IRCAM sur ces musiques électroniques ? Est-ce qu'il y a une évolution ? Je crois qu'au départ, l'IRCAM se pinçait un peu le nez quand on parlait de synthétiseurs et de musique électronique.
Bah, c'est exactement ça, en fait. Il y avait une grosse distance entre ce que faisait l'IRCAM à un moment. Parce que l'IRCAM, on a dit que c'était l'outil de Pierre Boulez, que c'était l'IRCAM qui lui servait à expérimenter, à créer des nouvelles musiques, des pièces qui utilisaient les traitements numériques créés à l'IRCAM. Et il y avait même un peu, entre Jean-Michel Jarre et Pierre Boulez et les gens de l'IRCAM, plus qu'une méfiance, c'était, il n'y avait pas de lien possible. Mais l'IRCAM a énormément évolué. Il y a maintenant beaucoup moins d'emprise de Pierre Boulez, et pour cause. Et en fait, l'IRCAM s'est beaucoup démocratisé. C'est-à-dire, même maintenant, des plugins sont vendus, alors qu'avant, il n'en était absolument pas question.
Un plugin pour les non-initiés ?
Alors, des traitements audio pour des effets sonores spéciaux qui sont intégrés dans les logiciels que tout le monde peut utiliser, comme Cubase, Logic Audio, etc. Donc ça, c'est des choses qui rendent les travaux de l'IRCAM populaires, alors qu'avant, c'était des recherches internes avec des très gros ordinateurs. Et au début, en fait, les musiciens qui composaient des musiques, ils ne pouvaient pas les entendre, ils les composaient. Ils écrivaient la partition sous forme numérique dans un ordinateur et ils mettaient les machines en route le soir et ils n'entendaient leur musique que le lendemain, parce qu'il fallait tout ce temps de calcul pour rendre la musique et les sons. Alors ça a énormément évolué, et puis maintenant l'IRCAM est maintenant quelque chose de beaucoup plus public. Et donc c'est vrai que les musiques de l'IRCAM au début étaient juste entendues par très peu de gens. C'est encore un petit peu la même chose, mais ça a beaucoup évolué.
Michel Gaïs, deux, trois questions. Et après, vous allez donner une conférence tout à l'heure, dans le cadre de ce Sinfest 2018. Vous direz d'ailleurs quel thème vous allez aborder. Mais les musiques électroniques, elles sont définitivement dans le registre populaire maintenant. Ça y est, elles ont rejoint les musiques populaires. Est-ce que c'est exagéré de dire ça ?
Non, c'est pas exagéré. Ce qu'on constate simplement, c'est que les musiques électroniques en tant que telles, elles n'ont plus tellement la faveur du public. Alors pour des raisons que je ne connais pas très bien, enfin si, on pourrait en parler un petit peu, mais l'instrument électronique, lui, il a intégré la musique populaire. Le synthétiseur, maintenant, c'est un instrument comme les autres, alors qu'à un moment, c'était regardé comme un instrument expérimental. D'ailleurs, mal vu par les conservatoires, hein, bon, on le sait bien. Ce qui a beaucoup changé, c'est surtout la disparition des musiques électroniques en tant que telles. Il y a un moment, jusqu'à assez récemment, où il y avait encore des morceaux de musique électronique qui passaient sur les radios populaires, comme Energy, comme pas mal de radios.
Vous pouvez passer du Vangelis, par exemple, ou
voilà, c'est ça.
C'est fini, ça.
Rendez-vous 4 passé à la radio. Après, il y a eu Chronologie aussi, le morceau Chronologie 4 qui passait même sur la radio Énergie. Mais maintenant, c'est une époque qui est terminée. Alors, les raisons, je ne les connais pas trop, mais les maisons de disques s'y intéressent moins. Et Jean-Michel Jarre lui-même le sait bien. Il sait maintenant que beaucoup de choses passent par les concerts et beaucoup moins par les disques. Les disques se vendent moins aussi. Maintenant, il y a la diffusion en ligne. Les Spotify, etc., Deezer, qui remplacent plus ou moins l'écoute de la musique ancienne par CD, même anciennement vinyle. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est de voir que des vinyles ressortent maintenant. Il y a des cycles.
Hein. Ça vous plaît, ça ?
Je ne peux pas dire que ça me plaît. Je constate juste qu'il y a une évolution, qu'on retrouve des choses anciennes qui ressortent. Et d'ailleurs, ici, au Synfest, on est en plein dans la synthèse des anciens temps et on voit que maintenant, on a repris des idées des années 60, 70 pour les exploiter de façon différente dans certains matériels et avec des innovations malgré tout. Alors ça veut dire qu'on n'a pas encore fait le tour de la question, qu'il y a encore des choses qu'on peut faire à partir des bases du passé. C'est étonnant.
Même s'il y a moins de musique électronique ou moins de musique de synthétiseur ou presque plus du tout qui passe sur les grosses radios, vous nous citiez certains noms de radios, pour autant, il reste toujours des fabricants hein, de français. D'ailleurs, il y a une French Tech, de synthétiseurs. Puis il y a aussi des constructeurs étrangers. Donc il y a une sorte de paradoxe finalement entre l'engouement populaire et puis moins d'engouement du côté médiatique. Comment vous regardez justement l'actualité de ces musiques électroniques actuellement ? Cet engouement, justement, le fait que là, on est au Synfest, Butte Saint-Anne, c'est plein là dans la salle à côté de nous. Comment vous regardez ça ?
Je regarde ça comme le signe que tout ça continue, hein, que même si on en entend moins à la radio, je vois des musiciens ici qui sont des passionnés du synthétiseur, du son, du son typique de certains synthétiseurs, etc., qui entendent la différence entre les uns et les autres, etc. Il y a toujours des passionnés, et puis bon, il y a toujours des choses qui sont produites, peut-être un peu moins populaires qu'à l'époque. On aura du mal maintenant à atteindre le niveau de vente d'un Oxygène, d'un Equinox ou autre, parce que c'est plus du tout la même époque, ça a changé.
Le disque s'est cassé la figure, hein, largement, quel que soit le style. Hein.
Oui, tout à fait, donc tout ça entre en ligne de compte. Mais en ce qui me concerne, je voudrais faire une petite parenthèse sur le matériel, puisque j'ai vécu, on peut dire, les débuts hein, de la synthèse. Avec la RP2600 et puis les autres synthétiseurs qui avaient...
Début des années 70, c'est ça ?
Oui, en fait, à peu près, oui. Début des années 70, et puis ayant connu ces synthétiseurs, moi j'étais complètement immergé là-dedans à l'époque, mais aujourd'hui, j'ai beaucoup d'intérêt pour les synthétiseurs logiciels, parce qu'il y a des choses qui sortent, qui sont impossibles à faire avec les techniques anciennes, et c'est pour ça que je me suis lancé dans la conception d'un nouveau synthétiseur avec trois personnes, Jean Lechard de l'IRCAM qui est un excellent programmeur qui a bien voulu écouter mes idées et puis une autre personne s'est rattachée à notre projet qui s'appelle Fabien Manchec qui est, lui, il a travaillé chez Moog ce fameux constructeur que tout le monde connaît pour concevoir sur tablette iPad un modèle très ancien de synthétiseur qui s'appelle le modèle 15 de chez eux. Et ça montre aussi qu'il y a une grosse évolution dans ce sens-là, c'est que maintenant, vous pouvez avoir une simulation de synthétiseur analogique des années 60-70 sur une tablette tactile, et pour une somme complètement dérisoire. Pour 10-15 euros, vous avez un synthétiseur qui est un son, si vous le branchez sur un ampli, une chaîne, n'importe quoi, vous avez un son quand même incroyable, quoi. Donc c'est une évolution fantastique. Et moi, je m'émerveille pour ça et je me dis, je me suis lancé dans l'aventure parce que mon concept de synthétiseur, il est complètement différent des autres et j'aurais pas pu le faire avec les méthodes anciennes. Et je pense que j'ai, avec un peu d'espoir, que ça va intéresser pas mal de musiciens parce qu'il a une toute autre approche pour la programmation des sons. Et ça, c'est une clé pour les musiciens d'avoir une autre approche pour programmer des sons.
Le nom de cet instrument électronique, rappelez-le-nous.
Alors, il s'appelle l'Octoplus. En fait, l'Octoplus, pour une raison, c'est que Octo, c'est 8, parce qu'il est basé sur des ensembles de 8 paramètres, hein, 8 réglages, qu'en fait, il y en a plusieurs comme ça, des blocs de 8, donc Octo pour 8, et plus, parce que il est basé au départ sur la synthèse additive. Synthèse additive, on ne peut pas entrer dans les détails techniquement, mais c'est une synthèse qui est assez difficile à paramétrer, à régler. Et là, j'ai eu une approche assez simple en me disant, avec peu de paramètres, on peut faire beaucoup. Et donc, c'est pour ça que j'ai rajouté à cette synthèse de base, vue d'une façon simple, j'ai rajouté de la FM. Et la FM, un peu comme dans les instruments de Yamaha, les DX7 et autres, mais là, encore une fois, avec une approche simple. Et en plus, donc, en plus de ça, il y a de la synthèse de type analogique, à l'ancienne, avec une simulation de filtre Moog dedans, et la combinaison des trois, comme on peut les mélanger, les différentes synthèses. Par exemple, un module peut faire que de la synthèse additive, un autre de la synthèse soustractive, donc analogique, hein, comme je disais. Tout ça permet énormément de possibilités.
La FM, c'est pas la même FM que la radio, c'est quoi ?
Alors la FM, c'est en fait une technique qui a été inventée, mise au point par cet Américain John Schoening. Et Yamaha avait acheté le brevet à l'université dans laquelle John Schoening travaillait. Et c'est une façon, si vous voulez, de créer des timbres musicaux en faisant un vibrato très rapide sur un son. Vibrato, on sait que ça fait changer la hauteur du son, c'est assez long. Hein. Quand une chanteuse, un chanteur chante, très souvent, il y a un vibrato dans leur voix. Et pour faire de la FM, il faut faire la même chose, mais beaucoup plus vite. C'est-à-dire, le vibrato qui est à 4 ou 5 périodes par seconde, en gros, bah, pour la FM, c'est du son audio qu'on utilise pour faire cette variation de hauteur. Donc on a, à partir de là, mis au point ce qu'on appelle les algorithmes. Bon, c'est des combinaisons d'oscillateurs qui permettent d'avoir des timbres très très différents. Je me souviens du lancement de la série DX de Yamaha. C'était au salon de Francfort, au salon de la musique. Et tout le monde était complètement sidéré parce que personne n'avait jamais entendu ça. On sortait du monde de l'analogique et d'un seul coup, on entendait des instruments qui avaient des sons incroyables et qui avaient une expressivité qu'on connaissait pas du tout, puisque les instruments analogiques ne pouvaient absolument pas faire ce genre de son. Et là, ça a été une rupture complète. D'un seul coup, tout le monde s'est jeté sur ces synthétiseurs.
C'était quand ça ?
Alors ça, c'était dans les années 80. Je ne saurais pas préciser très bien la date, mais on avait à ce moment-là des synthétiseurs analogiques polyphoniques, alors que les débuts du synthétiseur, c'était juste des modèles monophoniques. On avait déjà une évolution, mais en même temps, quand la FM est arrivée, là, ça a été des modèles polyphoniques, mais avec beaucoup plus de possibilités d'expression. Vous savez, l'expression, quand vous jouez sur un piano des notes faibles et que vous jouez des notes fortes, le timbre, il est vraiment différent. Donc c'est ce que la FM permettait, et c'est d'ailleurs sur ce principe-là que j'ai élaboré mon synthétiseur, parce que je voulais que ce synthétiseur soit très expressif. En fonction de l'intention du musicien, on peut faire des sons très électroniques, mais en même temps très expressifs.
Shoegaze, dernière chose, votre actualité, c'est celle-ci, de concevoir cette machine électronique, cet instrument de musique électronique. Actuellement, vous avez d'autres projets, d'autres activités artistiques ou techniques ou technologiques, je ne sais pas comment on dit.
J'ai osé sortir un morceau de musique personnel il y a quelques jours simplement, donc c'est tout neuf. Il s'appelle Avatar parce que c'est un nom qui me plaît et c'est évidemment, peut-être beaucoup de gens feront le rapprochement avec le film, mais ça ne me dérange pas parce que pour moi, Avatar, ce n'est pas seulement le film, c'est aussi, c'est une double signification, c'est aussi une représentation de soi-même sur les forums, sur Internet, et puis c'est aussi, selon les légendes et traditions indiennes, un personnage ou même un animal envoyé par les dieux pour rétablir l'ordre cosmique, en gros.
Sacrée mission, hein.
Oui, alors donc, j'ai mis ce morceau sur YouTube en tant que juste comme ça pour écoute. Je n'ai rien commercialisé pour l'instant, mais au moins, ça me permet de faire un test. Et donc, les gens, maintenant, s'ils veulent écouter, c'est sur ma page YouTube sous mon nom.
Michel Gaes, G-E-I-2-S, c'est bien ça.
Voilà, avec le titre Avatar.
Une question que j'aurais pu être la première. Comment vous définiriez comme un inventeur, une sorte de géotrouve-tout, un artiste, un musicien, un ingénieur du son, ça serait quoi l'expression, le groupe de mots, le mot qui vous définirait le mieux, Michel Gaes?
Alors en fait, c'est difficile de me définir moi-même, parce que les gens voient mon travail à leur façon, et moi je peux juste dire que je ne peux pas entrer dans une catégorie précise. Ce que je peux juste dire, c'est que je vis une vie passionnante depuis surtout ma rencontre avec Jean-Michel Jarre. Et c'est juste ça, c'est juste ce que je peux dire. Et je souhaite à beaucoup de gens d'avoir la chance que j'ai eue. Mais en même temps, je veux dire, si je suis arrivé à faire ça, c'était aussi par passion. Et puis je crois que je suis toujours tenté d'avoir une considération générale sur les gens. Et moi, je dis à tous les gens que je peux rencontrer, surtout les jeunes, les jeunes générations, qu'il faut essayer autant que possible de développer leur passion, parce que vivre une passion et gagner sa vie comme ça, il n'y a pas mieux pour un être humain, c'est l'idéal.
Je vois de la lumière dans vos yeux quand vous dites ça, en plus, Michel Gaes. Dernière chose, je vous libère, parce que vous m'avez accordé cette interview à quelques minutes d'une conférence, justement, c'est ma dernière question. Quel est le thème de la conférence que vous allez donner ici, en ce 31 mars, dans le cadre du festival, le Cinefest?
Le programme est un petit peu... à l'improviste, puisque on sera à trois sur scène. Il y aura avec moi Fabien Manchec, qui est notre collaborateur maintenant pour mon instrument, qui va parler de ce qu'il a fait pour Moog, et par ailleurs Vincent Guyard aussi, qui est là, qui a fait des démonstrations pour mon synthétiseur, mais qui va montrer une musique qu'il a composée sur des images. Et c'est vraiment très intéressant ce qu'il a fait. En ce qui me concerne, je vais parler un petit peu des nouveaux développements de mon synthétiseur, et puis je vais tenter de répondre aux questions d'Olivier Briand, l'un des organisateurs du Cinefest.
Merci Michel Gaes de votre disponibilité, puis on voit qu'on a affaire à quelqu'un de vraiment passionné, ça a éclairé votre vie, c'est ce que je retiens.
Merci beaucoup pour cet entretien, j'ai beaucoup apprécié.
Merci, c'est partagé.